le monde. Ah, le monde entier, maintenant par Internet, va apprendre la naissance de mon petit-fils Timothy Jacques. Que Dieu bénisse cet enfant et les parents. Amen. Il est né à 6:00 et la maman va très bien, le papa aussi, le bébé va très bien, il mesure 50 cm pour 3,4 kg, c'est ça, hein, Eric? Combien? 3,450 kg, je suis sûr qu'il a grossi déjà depuis. Il a commencé à faire un peu de muscule aussi. On est très contents, hein, Lucas et Elise, on est contents, c'est magnifique, hein? Voilà, ça c'est vraiment beau. Ah, Mélodie, hier, quand je l'ai emmenée là-bas, à la maternité, elle voulait vraiment y rester, mais on n'avait pas pris la valise rouge qu'on prend d'habitude. Et je crois que c'est ça qui a fait que... Alors, Catherine est venue nous l'emmener après. Et alors, l'infirmière dit, « Oh, mais je ne pense pas qu'on va vous garder encore aujourd'hui. » Elle dit, « Si. » Et puis le médecin est venu, a ausculté, et puis il a dit, bon, d'accord, on va vous garder, voilà, c'est le moment. C'est... Alors l'infirmière a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous lui avez donné combien au médecin? Et Mélodie a dit, un grand sourire. Je lui ai fait un grand sourire. Non, ce n'est pas le grand sourire qui a convaincu le médecin, mais c'était le moment. C'était le moment, et voilà. Alors on ne l'a encore pas vu, on se réjouit d'aller cet après-midi voir le bébé. Pour ceux qui ne peuvent pas, je vous mettrai des photos. On mettra aussi une photo sur Internet, et comme ça, vous aurez tout. Vous saurez tout. C'est magnifique, on est vraiment dans la joie. Et, c'est bien, ça fait plaisir. Romains chapitre 12, verset 2. Alors, déjà, quelques personnes sont au courant. Marc Croza est le premier à avoir répondu. Bravo, félicitations. Alors, il vous embrasse tous et puis on se verra cet été. Nicolas, ensuite, bravo, merveilleux, extraordinaire. Le prochain qui annonce une naissance, c'est moi. Parce que sa femme est enceinte, mais elle va accoucher fin août. Alors, oui, on a encore le temps de laisser de voir le temps venir, hein, jusqu'à fin août. La pauvre, avec cette chaleur, mais ça doit être effrayant d'être enceinte. Déjà, ça doit être effrayant. Oui, heureusement que je suis un homme, mon Dieu, quelle horreur d'être enceinte. Mais en plus, en Afrique, là-bas, avec cette chaleur, ça doit être terrible. Enfin, ils ont l'habitude, hein? Ils ont été faits pour. Mais voilà, que Dieu bénisse notre sœur Sally. On se réjouit de voir le bébé aussi de Sally et Nicolas au mois d'août. Enfin, moi, je le verrai sûrement en septembre. Enfin, je ne sais pas, on verra comment ça va se passer. Romains 12, 2. On va déjà lire au verset, hein. Je vous encourage donc, mes frères, je vous encourage au nom de toute la magnanimité de Dieu. Oh là, quel mot, hein. C'est pas tellement un mot moderne, ça. Pourtant, ça fait partie de la dernière version. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Voilà, c'est parce que notre culte, là, le dimanche matin, mes pauvres frères et sœurs, ce n'est pas tellement conforme à la parole de Dieu. On ne trouve nulle part un texte qui nous dit qu'il faut se rassembler, chanter 3-4 chants, faire la prière, chanter encore, louer le Seigneur, ensuite la prédication, après la collecte. Ça, c'est des inventions du monde. Le culte qui est agréable à Dieu, ce n'est pas ça. Ça, c'est de la copie de catholique qui a copié d'abord sur d'autres, etc., etc. Ça, c'est une cérémonie, mais ce n'est pas ça le culte. Le culte, ce n'est pas ça. Ce qui est le culte agréable à Dieu, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. C'est ça. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En tant que chrétien, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Dans le siècle présent, on aime ce qui est superficiel. C'est vrai, hein? C'est comme ça. Mais un disciple de Jésus ne reste pas à la surface des choses de Dieu. À la surface des choses de Dieu, quand on vient à Jésus, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il nous a fait passer dans un autre niveau. Nous ne sommes plus au niveau du bien et du mal, mais nous sommes au niveau de la connaissance du Dieu Tout-Puissant. C'est ça, n'est-ce pas? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les autres sont encore, gisent encore dans la connaissance du bien et du mal. Et un chrétien ne doit pas rester là. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le béaba, c'est le superficiel. On doit aller plus loin que ça. Sinon, on tourne en rond, c'est grave. Je vais vous expliquer ces choses. Ça va être un petit peu profond ce matin. J'espère que je ne vais pas froisser vos oreilles et votre cœur avec ce que je vais dire. Mon but n'est pas de vous froisser, mais mon but est de vous amener à voir d'autres choses, des choses plus importantes. Frères et sœurs, c'est dans le travail de la pensée que vous trouverez des possibilités qu'aucune autre activité ne pourra vous procurer. Le travail de la pensée. C'est pourquoi nous devons commencer par voir avec les yeux de l'esprit, voir la différence entre le travail de tous les jours, le travail qu'on comprend, tel qu'on le comprend en général, le travail, et le travail de la pensée. Écoutez bien ça. Je vous l'avais déjà dit une fois. Combien de tonnes de minéraux, de fer, de cuivre, doit-on manipuler pour obtenir quelques kilos de métal pur? Combien, hein? C'est terrible. Et qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Le reste, c'est ce qu'on appelle la gangue. La gangue. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On jette. On jette. Pour avoir quelques litres d'essence de rose, hein, Thierry, Natalia, Didier, pour avoir quelques litres d'essence de rose, il faut des wagons de pétales de rose. Or, l'essence de rose, ça vaut une fortune. Une fortune. Savez-vous combien valent quelques grammes de radium, quelques grammes d'uranium? Mais pour en avoir, qu'est-ce qu'il faut en manipuler des matières et des matières? Ok, on a besoin d'une grande quantité de matériaux pour obtenir très peu de ce qui est réellement précieux, pour obtenir la quintessence. Vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé sur la quintessence. Qu'est-ce que c'est la quintessence? Eh bien, dans l'Antiquité, certains penseurs, pas tous, hein, certains penseurs croyaient dans un cinquième élément, ils le nommaient l'éther. L'éther, c'est d'après eux le fluide subtil qui remplit l'espace après notre atmosphère. L'éther, vous avez entendu parler de ces choses. En alchimie, l'essence, la quintessence, c'est l'essence la plus subtile, la plus pure. Ça, c'est ce qu'on croyait au Moyen Âge, au temps de Nicolas Flamel. Vous avez entendu parler de Nicolas Flamel? L'alchimiste Nicolas Flamel. Il y a un restaurant tout près de où travaille Alain, je vais emmener Michou là, qui était fait dans la maison de Nicolas Flamel. Elle date de 1300 et quelques. C'est une des plus vieilles maisons de France. Voilà, mais à cette époque-là, on pensait que voilà, on voulait transformer le plomb en or. Hein, il travaillait à ça, là, dans sa maison. Littéralement, de nos jours, la quintessence, c'est ce qu'il y a de meilleur, d'essentiel, dans quelque chose, dans n'importe quoi. C'est ce qu'il y a de meilleur, ce qui est essentiel. Par exemple, pour moi, la quintessence de la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour moi, c'est la quintessence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre, ça ne veut pas dire que tout le reste est à jeter non plus, hein. Vous me faites bien comprendre. Mais c'est l'essentiel. À partir de là, n'est-ce pas, il y a tout. Quand on a dit ça, on a tout dit, en fait, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître le reste. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, la pensée. Tout ce que nous avons vécu, avec la pensée, nous devons travailler avec la pensée. Tant que nous ne savons pas travailler avec la pensée pour se contrôler, pour orienter nos énergies, pour les diriger vers des niveaux supérieurs, eh bien, tout ce que vous obtiendrez, ça va ressembler à des wagons de minéraux sous lesquels vous allez vous être enterré. Laisser les morts enterrer leurs morts, hein, ce que je vous disais vendredi. C'est la gangue. Et on trimballe. On ne peut pas faire autrement. On est bien obligé, hein, par exemple, pour l'argent, on est bien obligé de travailler, de remuer, comme on dit, ciel et terre, pour avoir un peu d'argent. C'est comme ça. Mais l'argent, encore lui-même, ce n'est pas ça la quintessence. Il faut encore fouiller dedans. Vous pouvez posséder le monde entier, nous dit la Bible, si tu perds ton âme. Voilà. Alors, si vous ne tirez pas la quintessence, ce qui est essentiel, eh bien, vous êtes pauvre. Vous pouvez penser que vous êtes riche, la Bible dit, hein. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, mais tu es pauvre. Et puis, vous allez finir par vous sentir pauvre, même avec des bagues serties de diamants à chaque doigt. Elle avait des bagues à chaque doigt. Ben, elle est pauvre quand même. Vous vous sentirez inquiet, vide, insatisfait. Même avec des comptes en banque bien garnis, Mes frères et sœurs, ce n'est pas la quantité de matière qui vous comblera, mais la qualité, sa qualité, sa quintessence. C'est la quintessence qui donne un sens à la vie. Tout ce que vous faites, en fait, n'a d'intérêt pour vous que dans la mesure où vous pouvez en tirer la quintessence. Pourquoi vous le faites? Dans quel but vous le faites? Quelle est la valeur de ce que vous faites? Pour un enfant de Dieu, c'est très important de savoir toutes ces choses-là. Parce que sinon, on reste dans le superficiel, la vie normale, hein, tous les jours, ça commence, et pour tout le monde, hein, ça commence par on se réveille, je me lève, et je te bouscule, et puis après, hein, on va manger, on va se laver, on va manger, on va bosser, on se retrouve à midi, on bouffe, puis l'après-midi, ça continue le soir, puis voilà, puis il y a le lendemain, puis ça continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, pourtant, il faut bien les remplir ces 24 heures. Mais la quintessence de ça, c'est quoi? Donnez à ce que vous faites un sens, une raison, une valeur immortelle. Alors on peut investir dans le monde, donner dans le monde. Ça fait des centaines d'années qu'on donne par exemple en Afrique, et puis ça va où? Dans un trou. Parce que ce n'est pas à l'Afrique qu'il faut donner, c'est à Dieu qu'il faut donner. Oui ou non? Oui mes frères et sœurs. C'est ça qui enrichit. Là où vous mettez votre trésor, ça vous enrichit. La quantité, c'est le monde, la qualité, c'est le royaume spirituel de Dieu. Aucune réussite, aucune possession matérielle ne peut donner de sens à la vie. C'est vrai. Parce que, justement, il s'agit de sens. Le sens. Et le sens, ce n'est pas matériel. On peut le trouver que très haut, le sens, dans des plans subtils. Là, on rejoint le Moyen-Âge. Dans les plans subtils. Plus bas, qu'est-ce qu'on trouve plus bas? Au niveau de l'être humain, on trouve que les formes. Les formes. La forme, bien sûr, on peut la remplir, la forme, avec le sentiment, avec les sensations qu'on ressent, qu'on éprouve, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose. Hein, c'est vrai qu'on remplit notre cœur de joie, là, voilà. C'est une belle bague pleine de diamants, eh ben, ça vous remplit de joie, mais c'est passager. Hein. Au bout d'un moment, la bague, on l'oublie. C'est pas qu'on l'oublie, mais la joie, c'est passager. C'est passager. Et même avec les gens, c'est la même chose. Le sentiment, tout ça, c'est passager. Un jour ou l'autre, vous allez ressentir un vide et inévitablement une souffrance. Bon, alors le problème, c'est que même en tant que chrétien, la plupart des humains ne font que de casser des pierres et les accumuler. C'est ça le problème. Ils n'arrivent pas à extraire la quintessence, même en tant que chrétien. Pour en obtenir la quintessence, il faut une autre activité que celle de « je me lève, et je te bouscule, et puis je vais déjeuner, et puis comme d'habitude, là, il faut plus. » Une autre activité, cette activité se passe dans un plan supérieur, c'est un enseignement pour initier qui va permettre, qui va vous apprendre, qui va apprendre aux humains comment trouver la quintessence, le sens, la chose précieuse dans la vie. Mais le problème, c'est que les enseignements couramment donnés ne vont pas plus loin que le bien et le mal. Les gens pensent, parce qu'on leur donne toujours cet enseignement au sujet du bien et du mal, qu'il faut absolument, que c'est primordial. Si je n'ai pas ça, je vais faire le mal. Je vais être victime du mal. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné au sujet du bien et du mal, ces 3 ou 4 dernières prédications. J'ai bientôt 60 ans, je me rappelle quand j'avais 20 ans, que j'étais en formation pastorale chez le pasteur Rachid Bouchami, je ne sais pas s'il vit toujours, j'en sais rien. Au début de mon ministère, il me disait, Michel, c'est simple, tu sers toujours le même plat, c'est juste la sauce qui change. C'est terrible. Hein? Il me disait, voilà, quand tu prêches, c'est ça, tu dois parler d'édification, de la sanctification, de la consécration, de la discipline, de la guérison divine, du salut, de l'eschatologie, puis tu recommences après, tu mets juste une autre sauce. Tu te sers de la sauce Bartimée, la sauce Abraham, la sauce Moïse, la sauce Jésus, la sauce l'apôtre Pierre, la sauce... Hein, mais c'est toujours la même chose, tu recommences de nouveau, édification, sanctification, consécration, discipline, guérison, eschatologie, et tu recommences. C'est épouvantable, moi quand j'ai entendu ça, c'est la première chose qui m'a fait tomber de haut. Ça m'a vraiment fait tomber de haut, parce que c'est terre à terre. Quand on aspire à la connaissance de la personne de Dieu, et puis qu'on se trouve devant des gens qui aspirent aussi à la connaissance de la personne de Dieu, puis on se dit, alors là, je suis là, je me tiens devant ces gens et je vais leur parler juste de ça. c'était grave. Moi, je trouvais que c'était épouvantable. Pourtant, j'étais très jeune. Puis alors, j'ai voulu aller à l'école biblique. À l'école biblique, je me suis dit, voilà, là, on va avoir un enseignement plus élevé. On va nous dire des secrets, des choses profondes de la part. Ben, pas du tout, c'est la même chose. C'est le siècle présent qui veut ça, mes frères et sœurs. Luther, lui, dans son temps, il a trouvé la quintessence. Jude Wesley, il a trouvé la quintessence. Branham, il a trouvé la quintessence. Osborne, il a trouvé la quintessence. Vous voyez ? Et puis alors après, il y a tous les rapaces qui viennent et puis qui bouffent les mêmes choses et qui régurgitent les mêmes choses et puis on tourne toujours dans les mêmes choses. C'est le siècle présent qui veut ça. C'est le fast-food chrétien. Vous allez me dire, t'es dur. Non, je suis réaliste et je veux vous ouvrir les yeux. Je veux que vous voyez. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il n'y a que ça. C'est superficiel. Ça nous permet de tenir juste la tête hors de l'eau. Mes frères et sœurs, il faut raffiner tout ce que tu vis, tout ce que tu accumules comme pensée, comme sentiment, comme sensation, toutes tes expériences, même les mauvaises, même les erreurs, toutes tes souffrances. Il faut que tu raffines tout ça, que tu passes ça à la raffinerie. Par exemple, un disciple de Jésus n'apprend pas seulement qu'il y a des lois, mais il apprend comment elles fonctionnent, afin de pouvoir s'en servir. Sinon, on est esclave de la loi, si on ne s'en sert pas. Mais on ne peut pas s'en servir si on ne sait pas comment elle fonctionne. Un disciple, il doit apprendre pourquoi parfois il stagne. Alors, en général, un disciple, il va penser, voilà, c'est parce que j'ai péché, parce que j'ai fait une erreur. Toujours cette relation au bien et au mal. Jamais il va plus loin. Hein? Alors que ce n'est pas parce que la terre a péché qu'on arrive en hiver. Vous comprenez? Il y a des raisons, il y a des saisons. Alors, vous allez stagner sur certains points, puis vous allez avancer sur d'autres, des fois en même temps. Quelles sont les raisons de cela? Et pour toutes les autres choses, il y a des raisons. Pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça ne marche pas? Pourtant, on fait les mêmes gestes de foi, on dit les mêmes mots, on a les mêmes émotions, les mêmes... Et pourquoi des fois ça ne marche pas? La quintessence, c'est ce qu'on peut trouver de plus parfait dans tout ce qui existe. Par exemple, Paul, il écrivait à Timothée. Alors, ça peut rester un verset biblique, ou alors on peut trouver plus. Il écrivait, il disait à 1 Timothée 4,14, « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Ne néglige pas. Puis ensuite, il écrit tout de suite après, « Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche afin que tes progrès soient manifestes pour tous. » Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Tout entier, d'une façon intègre, eh bien, il faut qu'il ne néglige pas le don. Tu reçois quelque chose, tu as quelque chose, on a tous quelque chose. Attache-toi à ce que tu as reçu. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Fais-le valoir, fais progresser ce que tu as reçu, manifeste-le. Cherche la quintessence de ce que tu as reçu. Par exemple, pour le don de guérison. La forme, c'est l'imposition des mains, Marc 16, c'est de poser des tissus sur des malades, hein, comme il nous est dit dans Actes 19, 11. Vous voyez, il y a déjà des gens qui sont choqués par la forme. Alors tu parles, quand on va les chercher plus profond, ils sont déjà choqués par la forme. L'onction d'huile, hein, faut savoir, connaître ces choses. Ça peut être des doctrines, mais ça peut aller plus loin que la doctrine. C'est là que se manifestent les guérisons. Parce que les doctrines, tout ça, ça, c'est les formes, c'est la forme. Mais plus haut, il y a la puissance de la manifestation. Et ça, ça se cultive, ça s'améliore. Or, une personne qui a reçu un don, elle va se fatiguer. Pas le don, la personne. Elle va se fatiguer, elle a besoin de se ressourcer. Comment elle va se ressourcer? Où elle va se ressourcer? Le don, il est toujours là. Celui qui a le don, il est comme un flacon de parfum. Le flacon, c'est la forme. Ouvrir le flacon, c'est encore une forme. C'est un geste, c'est une attitude, c'est un geste de foi. C'est poser quelque chose. Mais exhaler le parfum, ah, c'est là tout le secret. Exhaler le parfum, c'est plus subtil ça. C'est plus subtil. Pour que le parfum s'échappe du flacon, il faut que le flacon soit renouvelé en parfum. Écoute bien, parce que ça semble se contredire, mais ça ne se contredit pas. C'est valable pour tout. pas seulement pour le don de guérison, mais pour tout. C'est pourquoi il faut que tu écoutes. Ce qui te semble être contradictoire ne l'est qu'aux yeux des incrédules. Souvenez-vous, les disciples avaient été remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4, remplis du Saint-Esprit. Mais ils s'épuisent dans leur activité, dans l'activité de l'Église. Ils s'épuisent, ils se fatiguent. Et puis ensuite arrivent les persécutions. Ça les épuise aussi, ça les fatigue. Une fois relâchés, qu'est-ce qu'ils font? Relâchés de prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent et ils prient. Ils prient ensemble. Ils demandent à Dieu d'étendre sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, afin de confirmer que ce qu'ils disent est vrai. Et Dieu les remplit à nouveau du Saint-Esprit. Rappelez-vous, dans les milieux branhamistes, ils disaient un nouveau remplissage. Je trouvais ça affreux comme terme. Parce que c'est la forme qui est mauvaise. Mais on a besoin d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Et alors, ils ont recommencé à prêcher avec assurance et ils se faisaient encore des puissants miracles au milieu d'eux. Acte 4, 30, 31. Ce que nous avons reçu, ça doit être entretenu. Ça doit... Mais ça ne peut pas être entretenu si ça n'a pas été donné. Ça ne peut pas être entretenu si ce qui a été donné n'a pas été reçu, c'est-à-dire compris, accepté, intégré. Et puis ensuite, ça doit être donné et renouvelé. On ne peut pas obtenir la quintessence d'une chose sans donner cette chose. Plus on la donne, plus elle est redonnée, multipliée et purifiée et raffinée. Matthieu 25, 21, on va lire ça. Matthieu 25, 21. Ça va, vous suivez bien? Matthieu 25, 21. C'est bien bon et fidèle esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Ça, ce que vous avez reçu doit être cultivé. Vous devez en trouver la quintessence pour pouvoir recevoir plus, plus grand. Sinon, on ne peut pas entrer dans la joie de son maître. On tourne en rond. On tourne en rond. Tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu, nous dit la Bible. Tout, oui, même tes imperfections, oui. Parce que depuis Adam et Ève, tout va de pair. Le bien et le mal, ça va avec. Le bien va avec le mal va avec le bien. Si tu ne joues pas avec ces deux choses, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu ne tires pas la quintessence de ça, si tu ne tires pas la raison de ça, si tu ne tires pas ce qu'il y a de précieux là-dedans. Par exemple, le mal, les tentations, les problèmes que tu as, les blocages qui te semblent que tu as. Qu'est-ce que c'est la quintessence de ça? Essaye d'en tirer ce qui est précieux. Moi, j'ai trouvé pour moi. Là où je suis faible, c'est là où je suis fort. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, je vais vers Dieu et il me rend fort. J'ai trouvé à quoi me sert le mal. À devenir bien. Mais ça peut rester qu'une forme, un raisonnement, des paroles que je dis. Et qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? De ton partage, de ce que tu as reçu, de tes imperfections. Tire-en la conséquence, la quintessence plutôt. En te donnant... avec ce qui est en toi, avec tout ce qui est en toi, l'essence contenue dans la gangue va être manifestée, et c'est seulement quand elle est manifestée que ça peut donner quelque chose. Non, ça ne veut pas dire fais le mal qui est en toi, ça veut dire sers-toi de ce mal qui est en toi pour trouver le précieux, le bien. Mais tu ne peux pas donner n'importe comment. Et ça, c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent, ils donnent n'importe comment. Si tu donnes, tu dois donner selon l'ordre de Dieu. Tout ce que tu as, hein, je ne parle pas que d'argent là. Parce que quand on dit donner, les gens pensent tout de suite, ça y est, j'en veux mon pognon. Non, non, j'en veux pas votre pognon. Ça, c'est la gangue. Vous allez me dire, ah bon, ben, puisque c'est la gangue, je ne t'en donne pas. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire non plus. L'ordre de Dieu, il est écrit. Donne avec joie. Tu dois faire quelque chose. Aller visiter quelqu'un qui est malade, fais-le avec joie. Tout ce que tu fais, fais-le avec joie. La vaisselle, fais-la avec joie. Tout ce que tu fais, fais-le avec joie. On l'a écrit dans notre cuisine, hein? Avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça ne veut pas dire qu'il déteste celui qui ne donne pas avec joie, mais presque, hein? Il y a un problème, il y a une coupure, une rupture quand il n'y a pas la joie. Le don est le même. Tu me donnes 100 balles. Moi, j'ai les 100 balles. Si tu ne donnes pas avec joie, c'est toi qui perds. Non pas seulement tes 100 balles, mais tu me perds aussi, parce que tu vas ensuite ruminer. C'est-à-dire que si tu le fais avec joie, c'est différent. Dieu investit dans le cœur de celui qui donne avec joie. Donnez avec joie. Quand on parle d'argent, on comprend mieux, mais c'est pour tout. C'est pour tout la même chose. Donnez avec joie. Ensuite, à Dieu, c'est-à-dire à l'Église. Dieu construit son Église. Construit pas avec rien. Si tu n'apportes pas de l'amour dans l'Église, si tu ne donnes pas de l'amour dans l'Église, comment peux-tu penser en trouver? Tu veux trouver de l'amour? Mets déjà le tien. Même si ça te semble inutile de donner à l'Église, parce que tu dis, ouais, ça ne sert à rien de donner là, parce que Dieu, tout est à lui. Donc, il peut se débrouiller pour qu'il ait tout ce qu'il veut dans son Église. Moi, je préfère aller donner à ceux qui n'ont rien, à ceux qui n'ont pas. Faux, t'as tout faux. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Agir ainsi, c'est agir selon le siècle présent et non selon Dieu. C'est juste remuer de la gangue, j'explique. C'est déplacer de la gangue pour la mettre sur un autre tas de gangue. Vous voyez? La transformation, l'alchimie, la transformation miracle ne peut se produire que par Dieu. Que par Dieu. La gangue, elle est la substance stérile, c'est le dictionnaire qui dit. C'est la substance stérile qui dissimule ce qui est précieux. Si tu prends de la gangue pour la mettre dans la gangue, ça sert à quoi? Seul Dieu va lever le voile pour que le précieux apparaisse. Mais tu ne peux pas sortir, Dieu ne peut pas sortir le précieux dans ta gangue si tu ne donnes pas avec joie et si tu ne donnes pas selon son ordre. Des tonnes de gangues sont données chaque année aux humains, ça ne change rien du tout. Ils sont toujours dans le besoin. C'est à Dieu qu'il faut donner la gangue pour obtenir le précieux qu'elle dissimule. Parce que lui seul peut te révéler qu'est-ce qui est précieux, vraiment précieux. C'est ça, penser juste. C'est ça, penser selon l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, ça veut dire quoi? Analogie. Ben, tu prends la foi, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la Bible. Tu prends ce qui est dans la Bible, au sujet par exemple de l'amour. Eh bien, tout ce que tu trouves dans la Bible au sujet de l'amour va te faire agir d'une certaine manière, c'est-à-dire selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire de ce qui est enseigné. Le don de guérison, la même chose. Le don de tout ce que tu peux donner, c'est la même chose. Regarde ce qui est dans la Bible, fais ce qui est écrit. Ça, c'est selon l'analogie de la foi. Ça ne veut pas dire maintenant que tu ne peux pas investir dans le monde. Mais dans quel but tu le fais? Est-ce que c'est pour l'œuvre de Dieu? Ah! Vous voyez les frères et sœurs? Vous voyez les frères et sœurs? Toujours, ça doit revenir pour l'œuvre de Dieu, d'abord, pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Est-ce que c'est pour l'œuvre de Dieu? N'importe où. Tu peux aller n'importe où pourvu que ça soit pour l'œuvre de Dieu. Et c'est formidable de pouvoir aller n'importe où pourvu que ça soit pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'on peut faire des voyages, par exemple, extraordinaires. Mais si c'est pour l'œuvre de Dieu d'abord, à qui tu témoignes? À qui tu vas pouvoir apporter quelque chose qui vient d'en haut dans ce voyage que tu fais? Si c'est juste pour voir le paysage. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit. Tu peux le faire. Mais ça ne va pas t'apporter cette vraie satisfaction dans ton cœur si tu ne t'occupes pas de la quintessence, si tu ne t'occupes que de la gangue. C'est très agréable des fois la gangue. C'est vrai? Et je sais que c'est difficile à faire, à entendre une telle parole. C'est difficile. Agir autrement que ce que je vous dis là, c'est passer par une autre porte. Jésus est la porte. Tout ce que tu vas, tu passes par la porte. Quand tu entres, c'est par Jésus. Quand tu sors, c'est par Jésus. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus dit « Celui qui entre par moi et celui qui sort par moi et trouve des vers pâturages. » Ça veut dire, quand tu entres par Jésus, dans les choses profondes, dans les choses qui sont en haut, dans les choses élevées, tu trouves des vers pâturages. Quand tu te tournes et que tu sors par Jésus pour aller dans les choses plus inférieures, plus basses, les choses de la terre, la gangue, tu trouves encore des choses précieuses, des vers pâturages. Voilà pourquoi c'est écrit quand tu entres et quand tu sors par Jésus, par la porte. Sinon, ça ne veut rien dire ce verset. Trouvez-moi une autre expression, une autre explication. Je veux bien. Je suis avide de trouver une autre explication. Je ne suis pas bloqué. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, pour moi, celle-là me suffit. Elle me remplit de joie parce que je comprends ce que cela veut dire. Maintenant, si vous avez une autre explication et qu'elle m'apporte quelque chose dans ma vie, je la veux, donnez-la moi. Mais donnez. Faire autrement, c'est passer par une autre porte. C'est entrer où? D'un côté comme de l'autre, dans le labyrinthe du siècle présent. Entrer par une autre porte que Jésus, le pur esprit, le Saint-Esprit. C'est entrer par un esprit dans un monde spirituel, mais qui est un labyrinthe. Le comble, c'est la sorcellerie. Sortir de là, c'est aller dans le monde avec ce qu'on a reçu dans ces milieux ténébreux et labyrinesques, je ne sais pas si ça se dit, et c'est se retrouver dans un autre labyrinthe. Vous savez, c'est ça, tourner en rond. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais même si vous ne le comprenez pas, je suis sûr que ça vous donne un sentiment de vérité. La plupart du temps, c'est notre cœur qui parle fort, il parle fort. Mais ce n'est pas lui qu'il faut écouter, c'est l'Esprit de Dieu qu'il faut écouter. Pas notre cœur, parce que notre cœur, il se trompe souvent et il se laisse tromper aussi souvent. Alors on va plus loin. Quand tu commences à faire selon l'analogie de la foi, quand tu commences à donner selon l'analogie de la foi, quand tu commences à remuer toute cette gangue pour trouver ce qui est précieux, pour t'en occuper vraiment, pour te consacrer à cela, pour ne pas négliger cela, alors tu vas plus loin, il va t'arriver des choses que le monde chrétien a oubliées. Je vous en parlais vendredi. Quand les disciples étaient dans les ennuis, acte 5, 19, un ange est venu pour les délivrer. Un ange. Ils l'ont vu. Et puis ça s'est reproduit souvent, acte 12, 8, etc. Ça s'est reproduit. Souvenez-vous aussi que l'ange, il y avait un ange qui venait remuer l'eau dans la piscine de Bethesda. C'est bizarre ça, hein? Matthieu chapitre 5. Chose courante à l'époque, parce qu'on y croyait. Quand on n'y croit pas, ça meurt. Quand on n'y croit pas, c'est comme si ça n'existe pas. En ce temps-là, les gens s'attendaient aux actions des anges. Jean n'était pas étonné qu'un ange vienne lui parler quand il était sur l'île de Patmos. Ce n'était pas étonnant. Il ne s'est pas dit, est-ce que ce n'est pas un ange du diable déguisé en ange de lumière? Non. Paul, parce qu'il savait reconnaître, parce qu'il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la façon de Dieu. Il ne pouvait pas être trompé. Paul, écrivant aux Corinthiens, il leur écrit qu'il ne veut pas, il leur dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. Ça signifie donc qu'on peut être en communion avec les démons. Et c'est pourquoi Paul dit qu'il ne faut pas entrer, c'est dangereux. Mais si vous réfléchissez, ça signifie aussi que nous pouvons être en communion avec les anges de Dieu. Et ce n'est pas interdit, au contraire, ça veut plutôt dire que c'est quelque chose à rechercher. Ah bon? Non, il ne faut pas rechercher ça. Ah bon? Dans l'Église primitive, ça arrivait souvent. Les disciples de l'époque, ils n'étaient pas surpris que les anges les visitent. Souvenez-vous. Mais non, c'est pas Pierre à la porte, c'est son ange. Vous vous rappelez? Pierre avait un ange, il le savait, il le croyait. Est-ce que vous savez que vous avez un ange? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous lui parlez? En tout cas, dans la Bible, il parlait avec les anges. Hein. Il ne les priait pas, mais il parlait avec. Peut-on croire qu'au moins un ange est avec nous? Pour quelle raison nous aurions un ange avec nous? Jésus avait besoin des anges. Souvenez-vous, après avoir résisté au diable au désert, le diable le laissa. Qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu 4, 11, des anges vinrent le servir. Au jardin de Gethsémané, un ange est venu pour le fortifier. Luc 22, 43. C'est quand qu'un ange est venu la dernière fois pour vous fortifier? Ah bon? Est-ce que vous refuseriez l'aide d'un ange quand vous êtes faible, après avoir combattu le bon combat de la foi? Trouveriez-vous cela incorrect, religieusement parlant, qu'un ange vienne pour vous fortifier? Est-ce que vous diriez à un ange qui vient vous fortifier, « Non, seul Dieu est ma force !» À Pierre qui voulait prendre les armes contre les ennemis de Jésus, Jésus dit, « Mais Pierre, penses-tu que je ne puisse supplier mon Père qui me fournirait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ah bon, on peut supplier le Père pour que des anges viennent nous secourir? Cela nous enseigne que nous pouvons demander au Père de nous fournir des anges pour nous protéger. C'est exactement ce que ça signifie. Ou alors, vous voyez juste l'histoire, ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané, ça c'est la forme. Maintenant, la réalité. Il y a des milliards d'esprits. Trouvez la quintessence, les anges précieux, les anges saints. Ils ne peuvent être au service, ils ne peuvent apparaître, ils ne peuvent inspirer, ils ne peuvent parler à ceux qui trimballent leur gang avec amour. Et pourtant, je le fais avec amour. Tout ce que je fais avec amour. Oui, mais tu ne cherches pas à extraire la quintessence. Tu trimballes de la gang pour la déposer sur des autres tas de gangs. Tu le fais avec amour. Mais les anges ne peuvent pas agir dans des trucs comme ça. Ils n'agissent que dans la quintessence, dans ce qui est le plus précieux. Mes frères et sœurs, dans le monde des esprits, il n'y a pas que les mauvais esprits. Arrêtez de parler des mauvais esprits, chassez-les. Ne les laissez pas se servir de vous pour détruire l'œuvre de Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il avait besoin des anges pour le faire, puisqu'il était fortifié par des anges. Au contraire, suppliez Dieu de vous envoyer des anges qui vous aideront à détruire les œuvres du diable. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'être en communion avec des démons qui vont vous aider à détruire l'œuvre de Dieu. Parce que quand on est passif, quand on ne s'occupe pas des choses, quand on néglige les choses, eh bien, on est un outil dans les mains des choses. Il faut que vous pensiez différemment. Cessez de rester les deux pieds captifs dans le béton évangélique moderne du siècle présent. Écoutez bien, en ce moment, je vous donne une nourriture. Vous êtes devant des plats spirituels et votre esprit est élevé un peu plus haut. Il commence à saisir le sens. C'est comme un élément éternel qui entre en vous. Cet élément-là, lorsque vous l'avez trouvé, vous le possédez pour toujours. Mais il ne faut pas cesser de manger la parole de Dieu. L'autre soir, on a fêté l'anniversaire de Lucas. Et on a mangé, c'était délicieux, hein, cette bonne fondue qu'on a mangée. Elle ne venait pas de chez notre ami Jean-Daniel, mais elle était bonne quand même. Une bonne fondue, c'était super, mais c'était mercredi. Elle ne me nourrit plus aujourd'hui. Si vous ne décidez pas de faire ce travail de la pensée, jour après jour, en prenant votre nourriture, jour après jour, Si vous ne faites pas ce travail de la pensée qui seul peut orienter votre vie, vous allez dépérir. Comme si vous ne mangez pas jour après jour la nourriture de la parole de Dieu, vous allez dépérir. Si vous ne mangez pas jour après jour la nourriture qui est sur votre table matérielle, vous allez dépérir. Ce qui se passe dans le matériel a son pendant dans le spirituel. Je voudrais plutôt dire le contraire. Ce qui est dans le spirituel a son pendant dans la matière. Vous allez redescendre vers des régions inférieures de conscience, comme la majorité des gens du siècle présent. Vous allez vivre dans le superficiel. Ah oui, moi je crois en Jésus, oui. Oui, moi je fais des bonnes œuvres, oui. Est-ce qu'elles sont agréées? Soyez renouvelés dans votre intelligence afin de rendre à Dieu un culte qu'il puisse agréer. C'est de cela dont je vous parle. Le culte qu'on est en train de faire là maintenant, c'est de la babiole, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire avec toute cette gang, toute cette forme, toute cette masse, ces chants, ces prières, ces prédications, tout ça. Ne vous laissez pas influencer par les ignorants qui veulent vous éloigner de la vie spirituelle en vous faisant croire dans des valeurs qui ont une valeur, mais qui ne sont pas la gang. Ça a une valeur puisque ça contient la quintessence, mais ce n'est pas la gang qui est importante. N'écoutez pas, ne vous laissez pas influencer par les ignorants. Ils vont essayer de vous persuader qu'il y a tant de choses pratiques à faire sur la terre pour aider les gens, et puis ils tombent dans l'activisme, puis ils se fatiguent. Vous n'aiderez pas les gens longtemps si vous n'allez pas vous ressourcer vous-même. Le sens de la vie, vous ne le trouverez ni dans la famille, ni dans votre travail, ni dans l'art, ni dans les voyages, etc., etc., etc. Ces choses-là, ça peut être des moyens pour vous aider à vous approcher de ce sens, mais ces choses-là ne contiennent pas le sens. Ceux qui n'ont pas de vie spirituelle entretenue travaillent contre leur propre intérêt. Ils travaillent, mais contre leur propre intérêt. Parce qu'ils ont supprimé ou négligé ce qui est essentiel. Ils ont négligé ou supprimé ce qui pouvait leur donner le savoir et la maîtrise. Comme dirait mon frère Osborne, pensez-y. Vendredi prochain, je continuerai à vous enseigner sur ces choses. Si vous gardez la parole de Dieu, la Bible dit, hein, c'est Jésus qui dit, si vous gardez ma parole, mon Père vous aimera, et mon Père et moi, nous viendrons, nous établirons en vous. Si vous gardez la parole de Dieu, qui est esprit et vie, Jésus viendra en vous, avec tout son monde, avec ses anges, avec ses archanges, et vous deviendrez de bons et fidèles serviteurs dans votre génération. Sinon, vous serez des serviteurs dans votre génération, mais pas bons et fidèles. C'est clair? Le secret, c'est de garder la parole, pas seulement ce qui est superficiel, bien, mal, mais la quintessence du bien et du mal. Avec cette lumière que je vous donne ce matin, réécoutez les 3 ou 4 derniers messages que je vous ai donnés là-dessus. Ça va vous donner une lumière nouvelle sur ce que je vous ai dit dans les autres prédications. Avec ce que je vous dis ce matin, ce que je vous ai dit les autres jours, là, ça va s'éclairer d'une nouvelle lumière. Votre pensée va déboucher sur un niveau plus élevé. C'est ça notre but, afin d'être des bons et fidèles serviteurs durant le temps qui nous reste encore. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus de nous aider à trouver cette quintessence. Merci Seigneur de nous aider à nous élever au-dessus de la superficialité. Merci Seigneur Jésus. Tu vois notre cœur, nous désirons aller plus loin avec toi. Trouver ces pierres précieuses sur lesquelles la lumière n'a pas encore brillé dans l'Église des Nations. Nous te remercions Seigneur de nous aider à trouver ces choses afin de les mettre en valeur, de ne pas les négliger, mais de les manifester afin que dans notre génération, cette lumière puisse briller au travers de nous pour la grande bénédiction de tous ceux qui nous côtoient. Merci Jésus. Merci de permettre que ce message aille loin dans les cœurs de chacun de ceux qui les entendent. Amen. Amen.
Alors, vous connaissez un peu mon bagou naturel. Alors bon, je vais essayer d'être rapide et concis et bref quand même malgré tout. Alors bon, je voudrais effectivement vous remercier pour vos prières, pour tout ce que vous m'avez donné jour après jour pour que mon opération se passe bien. Ça, c'est déjà une chose de faite. puis après, j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas l'occasion souvent de témoigner et tout ça. Je me suis dit quand même, c'est quoi le déclencheur, quoi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu me faire opérer que l'opération soit bien réussie et tout ça? Alors j'ai réfléchi et tout, puis je me suis dit, j'ai retourné en arrière et tout, dans les années, puis je me suis dit, finalement, c'est le voyage en Suisse qui a tout déclenché. C'est le voyage en Suisse parce que, évidemment, le voyage en Suisse, ça s'est super bien déroulé et tout. Et puis après, y a eu un petit problème. C'est cette petite visite à la patinoire. Et évidemment, cette petite visite à la patinoire m'a déclenché un petit problème parce que je me suis cassé le poignet en voulant essayer d'aller plus vite que les autres comme d'habitude. Et donc je me suis 6 mois, j'étais 6 semaines plutôt avec un plâtre et j'ai été à l'hôpital de Verneuil pour me faire redéplâtrer et me faire une radio. Et qui c'est que j'ai vu dans cet hôpital de Verneuil? une personne en fait, un chirurgien qui était là, qui me voyait boiter, c'était bizarre. Il me disait, mais c'est bizarre, vous boitez et tout. Je dis, ça fait des années que je boite parce que j'ai de l'arthrose. Et puis voilà, ce chirurgien, évidemment, il fallait que je le rencontre, c'était obligatoire. Parce que lui, effectivement, c'était un chirurgien orthopédique. Et il m'a dit, va falloir vraiment que vous fassiez opérer, quoi, parce que c'est pas normal et tout. Et puis ce chirurgien, bon, il m'a j'ai réussi à en quelques mots et il m'a donné confiance, quoi. Ça a été vraiment le déclencheur. Bon, je lui dis, bah ok, pas de problème. J'y vais. Bon, bah, et donc il m'a on m'a donc donné rendez-vous et tout pour l'opération. C'était il y a un an et demi. Bon, après, vous connaissez la suite. Ça s'est pas fait parce que il y a eu d'autres problèmes. J'ai eu une petite infection à ma dent et tout. Ça a repoussé d'un an. Et puis finalement, ça s'est fait. Alors bon, voilà. Donc je remercie effectivement ce voyage en fait en Suisse qui m'a permis de faire ça. Et je remercie effectivement. Pourquoi il y a ce voyage en Suisse? Eh ben, évidemment, la Suisse, quand on dit la Suisse, effectivement, on pense à Marc Rosa tout de suite. Et donc, je voudrais effectivement le remercier pour tout ce qui nous a donné, quoi. Et ben voilà, quoi. Maintenant que je vais pouvoir marcher normalement, je pense que je vais aller lui dire merci directement en Suisse. Sinon, je voudrais effectivement vous remercier tous pour tout ce que vous faites chaque jour, pour l'amour que vous avez pour moi, pour le don de votre vie qui me donne beaucoup de simplicité, beaucoup plus simple à vivre cette rééducation que je fais jour après jour. Et je voudrais vous redire merci pour vos prières aussi qui m'ont aidé aussi à vaincre toutes choses, les appréhensions et tout ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'une opération c'est toujours assez délicat à faire, et grâce à vous, grâce à Dieu, j'en suis sorti. Merci beaucoup.